France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Certains tribunaux ont établi que ce n'était pas commun de la part des autorités franquistes de torturer systématiquement les prisonniers, et les tribunaux considèrent donc qu'il ne s'agit pas de crimes contre l'humanité.
De mon point de vue, abandonner les victimes du franquisme, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un manquement au devoir d'un état de droit.
Tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on veut, on continuera d'être les moustiques qui piquent l'éléphant.
Un pays qui regarde l'avenir doit être en paix avec son passé, c'est ce que déclarait le chef du gouvernement espagnol le mois dernier en lançant le processus d'exhumation de l'ancien dictateur Franco. Nous célébrons les 40 ans de l'Espagne démocratique, ajoutait Pedro Sanchez, et ce n'est pas compatible avec une tombe d'État où l'on continue à glorifier la figure de Franco. Le 13 septembre, les députés espagnols ont approuvé le transfert des restes du dictateur en vue de transformer le gigantesque mausolée du Valle de los Caídos en lieu de réconciliation et de mémoire. Mais les deux principaux partis de droite se sont abstenus lors du vote et le numéro 1 du Parti populaire, Pablo Casado, reproche à Pedro Sanchez de vouloir ressusciter les fantômes du passé. D'autant que le nouveau gouvernement veut créer une commission vérité sur la dictature de Franco et recenser les victimes de la guerre civile et du régime franquiste. Au moment de la transition démocratique, priorité était donnée au présent et à l'avenir, et au nom de la réconciliation, ce travail de mémoire n'a pas été fait, au point que d'anciens tortionnaires vivent une retraite paisible sans jamais avoir été inquiétés. En 2010, le célèbre juge Balthazar Garzón avait été suspendu pour avoir enquêté sur les disparitions de civils sous Franco. Mais les victimes n'ont jamais cessé de réclamer justice. Et en juin 2017, pour la première fois, une personne torturée à la fin du franquisme a porté plainte devant un tribunal espagnol pour crime contre l'humanité. 11 autres plaintes ont suivi. Plainte pour torture, les oubliés du franquisme, c'est un reportage signé Mayouen Bardron. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Sophie Babouy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la transition démocratique en Espagne et membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous interviendrez juste après le reportage de Mayouen Bardron. Mayouen, les victimes du franquisme qui veulent obtenir réparation rencontrent beaucoup d'obstacles.
Et le principal aujourd'hui pour les victimes du franquisme, eh bien, c'est l'existence de la loi d'amnistie. Elle est votée en 1977 au moment de la transition démocratique, 2 ans après la mort de Franco. L'esprit de la loi, c'était d'amnistier les prisonniers politiques, de les faire sortir des geôles franquistes. Donc, dans les textes, cette loi d'amnistie n'empêche pas d'enquêter et de juger les crimes commis sous la dictature. Et d'ailleurs, les législateurs ne pensaient pas que plusieurs dizaines d'années plus tard, les tribunaux espagnols interpréteraient cette loi de façon restrictive pour refuser d'ouvrir un procès contre des criminels franquistes. En 2007, le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero fait voter avec beaucoup de difficultés une autre loi. Elle s'appelle la loi de mémoire historique. Elle n'a jamais vraiment été mise en œuvre puisque 4 ans plus tard, le Parti populaire de Mariano Rajoy arrive au pouvoir en Espagne. Cette loi, en fait, avait surtout une portée symbolique, retirer de l'espace public les symboles et les monuments qui font allusion au franquisme, aider les victimes à chercher les corps de leurs proches dans les centaines de milliers de fosses communes qui existent en Espagne. Donc, cette loi de mémoire historique n'est pas aller plus loin. Et aujourd'hui, justice, vérité et réparation, eh bien, ce sont 3 revendications des victimes qui n'ont toujours pas été entendues.
Et votre reportage, Mayouen, commence sur la fameuse place Puerta del Sol dans le centre de Madrid, en face du siège du gouvernement régional.
Hola.
Bonjour, je suis Jesús Rodríguez Barrio. Je suis devant un bâtiment très connu dans l'histoire de Madrid pour avoir été le principal centre de détention et de torture pendant le franquisme. J'ai été détenu 3 fois dans les cachots de ce bâtiment. J'ai été interrogé et torturé, notamment par un des tortionnaires les plus connus, Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. Je m'apprête d'ailleurs à porter plainte contre lui devant les tribunaux espagnols. Les prisonniers entraient dans le bâtiment dans des fourgons ou des voitures de police par une porte qui donnait accès sur une cour intérieure. Le prisonnier était ensuite conduit dans une salle où on prenait des renseignements sur lui, puis vers les cellules qui se trouvaient au sous-sol.
On les voit ici, les cellules. Là, on voit des fenêtres sur l'édifice donc, qui est aujourd'hui le siège du gouvernement régional de Madrid. On voit des fenêtres. Est-ce que ces fenêtres, elles donnaient sur les cellules, sur les lieux d'interrogatoire pendant cette période du franquisme ?
Ce qui rappelle les interrogatoires, mais surtout les cellules, ce sont les petites fenêtres qui donnent sur la rue, près du sol. Personne ne peut imaginer ce que c'était. Les gens, quand ils voient ces fenêtres, ils pensent que c'est une sorte de ventilation d'un entrepôt. Ils ne se rendent pas compte que c'était ce qui permettait d'aérer les cellules où étaient enterrés les gens. La sensation d'être à la merci des tortionnaires était horrible. Et le fait d'entendre les gens se promener, qui s'amusaient, les gens passaient en riant, en parlant tranquillement, sans savoir ce qu'il y avait en dessous. Toi, tu étais juste sous leurs pieds et tu te disais, ces gens qui se promènent n'ont aucune idée de ce qui se passe en dessous. Ils ignorent complètement l'horreur qu'il y a dans ces trous. Dans ces sous-sols.
Vous avez été arrêté plusieurs fois dans les années 70 et en 1975, c'est à ce moment-là que vous rencontrez Antonio González Pacheco, le policier franquiste contre lequel vous portez plainte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me raconter ce jour-là où vous avez été arrêté donc en 1975?
Le 16 avril 1975, j'étais sur le point d'entrer dans la maison où j'étais invité. À ce moment précis, des policiers qui m'attendaient cachés se sont jetés sur moi. J'ai aussitôt été conduit à la Direction générale de la sécurité, puis aux interrogatoires. Il y avait notamment le célèbre Antonio González Pacheco. J'étais à peine entré dans la salle d'interrogatoire et sans me dire un mot, il me donna un gros coup dans les parties génitales. J'étais plié en deux, j'avais tellement mal. Il a continué de me frapper. Et après tous ces coups, il a commencé à me poser des questions. Pendant l'interrogatoire, il me posait plein de questions afin que je reconnaisse mon appartenance à une petite organisation antifranquiste qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire. Le dernier jour, j'ai été conduit à un dernier interrogatoire. Au moment de prendre ma déposition, puisque je ne donnais aucune information, Billy El Niño a sorti son pistolet et l'a mis contre ma tête en me disant qu'il pourrait me tirer dessus et que ce n'était pas grave parce que personne n'allait l'apprendre. Alors j'ai dû supporter ce moment de stress. En me disant qu'il n'allait pas le faire, j'ai résisté, je n'ai rien reconnu. Ils ont terminé de prendre ma déposition et après, j'ai été conduit au siège du tribunal de l'ordre public. J'ai été détenu 2 mois à la prison de Carabanchel, à Madrid, dans l'attente d'un jugement. Ce tortionnaire, Antonio González Pacheco, c'était un homme qui non seulement cherchait des informations quand il interrogeait les détenus, mais il avait aussi une obsession pour 2 choses. Tout d'abord, je suis convaincu qu'il savourait ces moments où il me torturait. On pourrait le qualifier d'une certaine manière de psychopathe. Quelqu'un qui ressent du plaisir en causant des dégâts. Mais en plus, ses objectifs, c'était d'humilier et de détruire moralement les personnes qu'il interrogeait. C'était une torture dans le sens physique, mais aussi morale, qui rendait la personne interrogée très angoissée.
Jesús Rodríguez Barrio sera la 10e ou la 11e victime à porter plainte contre Antonio González Pacheco. Jusqu'à présent, le tortionnaire est visé par 9 plaintes à Madrid. Derrière chaque plainte, un travail minutieux mis en place par l'association La Comuna, créée en 2011. Objectif, venir en aide aux victimes de la fin du franquisme en les appuyant dans leur démarche judiciaire, mais également en organisant des manifestations pour que les Espagnols prennent conscience de leur situation.
Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay.
Rosa Garcia Alcón est également membre de cette association. Elle avait 18 ans et militait dans une organisation étudiante d'extrême gauche quand elle a été arrêtée et torturée. Cette petite femme coquette qui a aujourd'hui 61 ans a porté plainte au mois de mars, soit 43 ans après la mort de Franco. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Elle nous a donné rendez-vous dans son appartement situé dans le quartier ouvrier de Vallecas à Madrid.
No fue miedo, fue más bien el falta de confianza en que la judicatura.
Non, c'était pas de la peur, c'était plus un manque de confiance puisque le système judiciaire était l'héritier direct du franquisme. Il n'y a eu aucun changement au sein de l'armée, ni parmi les juges, ni parmi les politiques. En 1982, le PSOE arrive au pouvoir avec une majorité écrasante. On avait un peu confiance puisque le Parti socialiste, c'est une histoire de lutte. De milliers de militants fusillés, jetés dans les fosses communes. On pensait qu'ils feraient quelque chose, mais ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont enterré nos revendications en matière de mémoire historique. C'est vrai qu'à partir des années 2000, la mémoire historique a commencé à s'organiser avec des associations de victimes. Il a commencé à y avoir de plus en plus de pression, notamment dans la rue. Face à cette demande, le gouvernement de Rodríguez Zapatero a fait voter une loi de mémoire historique. Ça devait nous ouvrir les voies de la justice. On pensait que ce serait le cas. 7 années se sont écoulées et nous n'avons toujours rien obtenu. Les témoins de la répression franquiste au moment de la guerre civile vont mourir, comme ceux des dernières années de la dictature. Il faut recommencer à lutter, on n'a jamais vraiment arrêté, mais cette fois, il faut se battre à nouveau. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas toujours la force qu'on voudrait, mais c'est une obligation de se battre. Même si c'est seulement gêner le pouvoir, c'est comme un moustique pour un éléphant. Le moustique ne va pas lui faire de mal ou le tuer. Il est gênant. Tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on veut, on continuera d'être les moustiques qui piquent l'éléphant.
Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé au moment de votre arrestation ? Donc on est en août 1975. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là ?
A mí me detuvieron por la calle.
Moi, ils m'ont arrêtée dans la rue. J'ai été détenue 7 jours. Ensuite, j'ai été conduite dans la prison pour femmes de Yeserías, à Madrid, où je suis restée jusqu'en décembre 1975, après la mort de Franco.
Et pendant ces 7 jours de détention, c'est à ce moment-là que vous rencontrez Antonio González Pacheco, surnommé Billy El Niño. Comment ça se passe ?
J'étais à peine arrivée, il m'a donné des coups de poing dans le visage, sur le corps, des coups. Je tombais, il me relevait en m'attrapant par les cheveux. J'avais des cheveux longs à l'époque. Ensuite, j'ai été conduite vers un autre bureau où il y avait un autre policier. Lui m'a donné des coups sur la plante des pieds, ça faisait très mal. J'avais des inflammations aux pieds. Venait ensuite un autre policier qui te demandait autre chose, il te donnait également des coups de poing. Une nuit, il y en a un qui est venu me frapper la tête avec une chaise. Deux fois, ils m'ont emmené en voiture pour trouver une de nos planques, mais on n'en avait pas. En chemin, ils me disaient qu'ils allaient m'emmener dans un grand parc à Madrid qui s'appelle Casa de Campo, qu'ils allaient me violer et que mes parents ne sauraient jamais où j'étais. Ce genre de menaces en continu.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña.
Face à vous, il y a un énorme, j'allais dire, dossier rouge, une pochette rouge. C'est là que vous avez tous vos documents qui ont été nécessaires pour présenter la plainte. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette ?
Et tu vois, lo que hay es un informe de instituciones penitenciarias.
Alors, il y a un rapport des institutions pénitentiaires qui explique mon arrivée et ma sortie à la prison de Yacerías, la prison pour femmes à Madrid. Il y a aussi les demandes que j'avais faites, puisque pour chaque chose que je demandais, il fallait rédiger un document. Tous ces papiers sont là. J'ai également réussi à obtenir ma photo d'identité judiciaire.
La puedes mostrar? Vous pouvez me la montrer?
Ça, c'était moi quelques jours avant.
Et
ça, c'est moi après avoir passé deux jours en détention et après avoir été torturée.
Donc là, en fait, ce sont deux photocopies de photos qui ont été prises de vous avant la détention et après la détention, donc des photos prises par les policiers franquistes. Los policías franquistas sacaron las fotos.
Las fotos las hacían de forma rutinaria.
Ils prenaient systématiquement en photo tous les détenus et les rangeaient dans leurs archives.
En los archivos. Entonces, pues se ve sobre todo.
On voit surtout un bleu sur ma pommette gauche, en conséquence des coups de poing. J'ai tout le visage gonflé à cause des coups, des gifles. Et on ne voit pas le reste du corps, ni mes pieds sur la photo, mais ils étaient en mauvais état. Quand j'ai reçu cette photo, il y a un an, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a choqué.
Pour porter plainte, vous avez dû constituer ce dossier-là qui est face à nous. Il y a d'autres documents, parce qu'évidemment, ça prend du temps. Il a fallu prouver que vous avez été torturé. ¿Cuáles son los documentos? Protocolo d'Istanbul.
Sí.
Protocolo de Estambul.
El protocolo de Estambul sirve.
Le protocole d'Istanbul, ça sert à identifier les victimes de torture, mais aussi les victimes de terrorisme, de tremblements de terre, qui ont vécu des situations traumatisantes. Tout d'abord, pour voir si leur récit est crédible, mais aussi pour savoir comment le contextualiser, savoir quelles sont les séquelles émotionnelles et psychologiques après le traumatisme. Le groupe SIRA, c'est un groupe de psychologues et de psychiatres qui ont travaillé avec nous de façon gratuite pour faire cette étude du protocole d'Istanbul. Et dans ce rapport, ils ont retranscrit mes deux jours d'entretien, ce que je leur avais raconté, et au final, ils ont conclu que je leur ai raconté la vérité. Leur diagnostic est victime de crimes ou de terrorisme, incluant des actes de torture.
Trastorno de estrés post-traumático en remisión parcial.
Trouble de stress post-traumatique en rémission partielle.
Donc, pour porter plainte, il faut forcément passer par ce protocole d'Istanbul. Vous avez besoin de ce rapport pour pouvoir porter plainte et prouver que vous avez été torturé.
En principio, es un apoyo a la querella.
En principe, c'est un soutien à la plainte. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important. L'Espagne reconnaît ce protocole d'Istanbul, donc en théorie, ça devrait être pris en compte. Mais malgré la présentation de ce rapport, la plainte a été rejetée.
Rosa García Alcón a fait appel et espère qu'un juge aura un jour le courage d'ouvrir un procès contre son tortionnaire. Mais la situation semble aujourd'hui bloquée. Les tribunaux espagnols considèrent que les actes de torture qu'ont subi les victimes comme elles sont prescrits. Une interprétation juridique erronée pour de nombreux spécialistes du droit pénal international. Selon eux, c'est la notion de crime contre l'humanité qui doit s'appliquer.
Je suis Javier Chinchón, je suis professeur de droit international à l'Université Complutense de Madrid et je fais partie de Rights International Spain. Pour que les actes de torture soient considérés comme étant des crimes contre l'humanité, il faut que ces actes ne soient pas isolés, mais qu'ils aient été commis dans le cadre d'un plan généralisé systématique de la part des autorités. Certains tribunaux ont établi que, bien que ces actes de torture aient été prouvés, il n'y avait pas de plan de torture. Selon eux, ce n'était pas commun de la part des autorités franquistes de torturer systématiquement les prisonniers, ce qui dans les faits n'est pas soutenable. Pour eux, il s'agit d'actes isolés, ponctuels, qui n'entrent pas dans un plan généralisé systématisé, et les tribunaux considèrent donc qu'il ne s'agit pas de crimes contre l'humanité. La réalité que nous connaissons est tout autre. La torture était généralisée. S'il n'y avait aucune conséquence judiciaire, c'est parce que c'était une politique mise en place par l'État qui visait des opposants politiques ou d'autres catégories de personnes.
Donc comment expliquer que les tribunaux espagnols aujourd'hui se basent sur cette définition de crime contre l'humanité pour justifier le fait que les plaintes soient rejetées.
Selon certains tribunaux, même si ces actes de torture ou de disparition forcée, vol de bébé ou arrestation arbitraire pouvaient être considérés comme étant des crimes contre l'humanité, au moment où ces actes ont été commis, la notion de crime contre l'humanité n'existait pas dans le droit espagnol. De telle façon que, selon leur interprétation technique, cette notion ne peut être appliquée qu'aux actes qui ont été commis à partir de 2003, année où ces crimes intègrent notre code pénal. C'est une interprétation technique sur le principe de l'égalité pénale. Pour certains tribunaux qui considèrent que ces actes de torture ne faisaient pas partie d'un plan généralisé et systématique, il y a un autre problème, qui n'est pas judiciaire cette fois dans le cas espagnol. C'est l'absence de constatation, de récit officiel, de commission de la vérité, de rapport qui atteste que la torture était bien quelque chose de généralisé au sein de l'appareil répressif. Certains tribunaux considèrent qu'il n'y a aucune preuve qui établit l'existence de ces faits, même s'il s'agit de cas concrets. Face à ce manque de preuves, ils considèrent qu'il s'agit d'actes de torture isolés, et dans ce cas, la notion de crime contre l'humanité ne peut pas être invoquée. Les faits se sont déroulés il y a longtemps, ils sont prescrits, la loi d'amnistie s'applique, et dans tous les cas, ils rejettent la procédure.
Si peu de juges espagnols acceptent aujourd'hui d'ouvrir un procès contre des criminels franquistes, c'est parce que l'affaire du juge Baltasar Garzón est passée par là et les en a dissuadés. En 2008, ce juge de l'Audience nationale, la plus haute juridiction espagnole, se déclare compétent pour enquêter sur les crimes du franquisme. Il se base notamment sur la loi de mémoire historique votée un an auparavant par le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2010 et 2012, il est d'abord suspendu, puis définitivement démis de ses fonctions. Il est notamment accusé de ne pas avoir respecté la loi d'amnistie de 1977. Aujourd'hui, l'ex-juge star, comme l'appelaient ses détracteurs, travaille en faveur des droits de l'homme, mais depuis son cabinet d'avocat à Madrid.
Ça m'a demandé beaucoup de travail. Et quand j'ai commencé à enquêter, les portes de l'enfer se sont ouvertes. L'enquête pénale que j'ai proposée était centrée sur les victimes, parce qu'en soi, enquêter sur ces crimes, le droit à l'accès à la justice, à la vérité, à la mémoire, c'est une réparation. C'est ce que j'ai tenté de faire, mais il y a eu une opposition absolue au sein du premier tribunal de l'Audience nationale. Ils ont classé l'enquête que j'avais initiée. Ils n'ont pas pu le faire entièrement. J'avais prévu ce qui allait arriver. Et je me suis dessaisi en faveur des différents tribunaux dans les territoires où avaient disparu les victimes. Mais ensuite, sur demande du procureur ou de leur propre initiative, les différents juges ont classé les plaintes sans enquêter. C'est sans doute le pire. Il n'y a jamais eu d'enquête pour savoir ce qui s'était passé. Ça s'est terminé par l'ouverture d'une enquête sur moi, pour avoir initié cette procédure. S'en est suivie une résolution de la Cour suprême, le 28 mars 2012, je crois, à travers laquelle la justice espagnole se prononce définitivement contre l'ouverture d'enquête sur les crimes du franquisme. Juridiquement, on peut débattre si la loi d'amnistie doit s'appliquer d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne l'ai pas appliquée parce que je considérais que les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être protégés par la loi d'amnistie. Cette résolution a débouché sur l'impunité des crimes franquistes en Espagne. De mon point de vue, abandonner les victimes du franquisme, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un manquement au devoir d'un État de droit, un manquement aux obligations d'un juge. Malheureusement, la position de la justice est à l'opposé de cette idée. J'étais conscient des risques que je prenais et des conséquences que ça pouvait engendrer. Mais je ne pouvais pas poursuivre des crimes contre l'humanité, des actes de torture, de génocide commis sous la dictature argentine et chilienne. Je ne pouvais pas me contenter d'avoir arrêté Pinochet à Londres. Et quand j'ai eu l'opportunité d'enquêter sur des crimes similaires en Espagne, dire qu'il ne s'était rien passé. Si, il s'est passé quelque chose. Et il y a aujourd'hui une impunité sur laquelle s'accordent toutes les institutions, tous les partis au pouvoir, de gauche comme de droite.
La nouvelle ministre de la Justice au sein du gouvernement de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, a travaillé dans le domaine du droit pénal international. Vous avez travaillé avec elle au sein de l'Audience nationale, donc la plus haute juridiction pénale espagnole. Est-ce que aujourd'hui vous allez pouvoir avoir une certaine influence au sein de la vision du gouvernement, au sein du travail du gouvernement en termes de respect des droits de l'homme en Espagne?
La ministre, je crois que si. C'est une personne avec de fermes convictions.
La ministre, c'est une personne avec des convictions fermes. Elle a toujours défendu la juridiction universelle. Quand elle était procureure, c'est elle qui a accusé un tortionnaire argentin, Adolfo Chilingo, en lui imputant 30 assassinats au sein de l'école de mécanique de la marine argentine, un centre de détention pendant la dictature. Ses convictions sont claires, tout comme ses positions sur la mémoire historique et les crimes franquistes aussi. Donc, elle devrait avoir de l'influence. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ce soit nécessaire que j'aie de l'influence. Mes positions sont très claires depuis longtemps. Si claires que ça m'a coûté la suspension de mes fonctions. Avant que Pedro Sánchez n'accède au pouvoir, le Parti Socialiste nous avait demandé de l'aide depuis la société civile pour préparer la modification de la loi de mémoire historique qu'ils ont présenté comme projet en décembre 2017. Et nous l'avons fait avec notre fondation. Donc si j'ai eu de l'influence, c'était à ce moment-là, parce que Pedro Sánchez a présenté ce projet auquel nous avons participé. Maintenant, le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est gouverner. Il n'a pas besoin d'influence. Mais je crois que la ministre de la Justice agit de la bonne façon, en écoutant la société civile.
Suite à l'affaire Garzón, voyant que les voies judiciaires étaient bloquées en Espagne, les victimes ont décidé de se tourner vers un tribunal argentin à partir de 2010. C'est possible, au nom du principe de justice universelle, les crimes contre l'humanité peuvent être jugés dans n'importe quel autre pays. La plupart des victimes de torture ont donc d'abord porté plainte en Argentine, mais en 2014, le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy a refusé d'extrader de nombreux criminels franquistes comme Antonio González Pacheco, mais également un peu plus tard, 8 ministres de Franco. Le nouveau gouvernement socialiste de Pedro Sánchez pourrait être plus enclin à le faire, mais il semble privilégier l'ouverture de procès sur le sol espagnol, notamment grâce à une réforme de la loi de mémoire historique.
Bueno, soy Fernando Martínez López, soy catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Almería.
Je suis Fernando Martínez López, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Almería en Andalousie et je fais partie du gouvernement de Pedro Sánchez en tant que directeur général de la mémoire historique, un poste rattaché au ministère de la Justice.
del Ministerio de Justicia. Por primera vez en la historia de España,
c'est la première fois dans l'histoire de l'Espagne qu'il existe une direction générale de la mémoire historique, ce qui souligne la sensibilité du gouvernement sur ce thème. Vinculados a la
memoria histórica. Les victimes du franquisme trouvent que cette loi de mémoire historique votée en 2007 est un premier pas en Espagne en faveur de leurs droits. Mais elle trouve également que cette loi ne va pas assez loin. En 2007, elle s'est arrêtée à des mesures symboliques comme le changement du nom des rues franquistes, l'ouverture de fosses communes, mais par rapport à l'ouverture de procès, elle ne va pas assez loin. Vous, avec le gouvernement de Pedro Sánchez, vous allez décider d'aller plus loin avec cette loi.
La ley de José Luis Rodríguez Zapatero, la que...
La loi de José Luis Rodríguez Zapatero, promulguée en décembre 2007, c'est un progrès par rapport aux droits des victimes. Elle pose les bases de la récupération de la dignité des victimes du franquisme et de la guerre civile. Les victimes du côté des républicains n'avaient pas été réparées après la guerre civile, alors que celles du camp des vainqueurs l'avaient été tout au long de la dictature. Qu'avons-nous observé pendant ces 10 années d'application de la loi? Eh bien, premièrement, qu'elle était insuffisante. Elle ne pouvait pas atteindre ses objectifs, notamment parce que les tribunaux pouvaient mal l'interpréter. Donc, ce que nous envisageons avec la réforme de la loi de mémoire historique, celle que nous allons présenter aux députés devant le Congrès espagnol, ce sont toutes les mesures qui rendent possible une réparation intégrale en termes de vérité, de justice et de garantie de non-répétition. Nous avons travaillé en profondeur sur tous les aspects soulevés par les organismes nationaux, internationaux et humanitaires, par les associations de mémoire historique, sur toutes les insuffisances qui existaient, pour faire en sorte que, une fois pour toutes, nous puissions résoudre ces problèmes et respecter le droit des victimes de la guerre civile et du franquisme. C'est ce qu'on vise à travers cette réforme, par rapport à la vérité, connaître de façon approfondie comment ont été commises ces violations des droits de l'homme.
En
ce qui concerne la justice, nous allons légiférer sur la façon dont les juges doivent intervenir dans des cas de disparition, de vol de bébés. Et quant aux réparations, il y a un volet moral, mais aussi économique, comme des saisies ou des sanctions.
À droite, le thème du franquisme reste encore aujourd'hui plus ou moins un tabou. Les partis espagnols comme le Partido Popular, le parti de l'ex-chef de gouvernement Mariano Rajoy, parlent de rouvrir les blessures du passé en enquêtant sur les crimes du franquisme. C'est pour cette raison que le parti s'est opposé à une réforme de la loi d'amnistie. C'était le 20 mars exactement. La réforme a donc été annulée par le Congrès espagnol. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Pour en parler, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un député du Partido Popular.
Je suis Francisco Martínez Vázquez, député au sein du groupe parlementaire du Parti Populaire, porte-parole de la Commission constitutionnelle du Congrès.
Quelle est votre position par rapport à la réforme de la loi d'amnistie et la loi de mémoire historique? Il y a quelques mois, votre parti a voté contre une de ces réformes. Quels sont vos arguments politiques?
Pour nous, c'est une question qui est résolue depuis longtemps en Espagne. Les députés s'étaient déjà prononcés de façon très claire sur la guerre civile, sur la dictature, dans une résolution que la Commission constitutionnelle a approuvée en 2002. Donc notre position sur ce sujet, c'est que les Espagnols ont d'autres priorités. Ils s'intéressent à leur présent et à leur futur. Le gouvernement et les parlementaires doivent travailler sur ces questions pour assurer le futur des prochaines générations et ne doivent pas rouvrir les histoires d'affrontements très tristes entre les Espagnols qui appartiennent au passé. Pour nous, l'Espagne a vécu une transition exemplaire, une transition qui a permis de sortir d'un régime qui n'était pas démocratique, un régime autocratique. C'était une dictature et nous n'avons aucun problème à le dire. Personne au Parti Populaire, absolument personne ne défend la dictature. Nous l'avons toujours dit de façon très claire lors des sessions parlementaires. Nous pensons qu'il faut défendre cette transition, commémorer les 40 ans de notre Constitution, célébrer ce qui a été fait pour réconcilier les Espagnols et construire notre présent et notre futur. Ceux qui pensent qu'il faut en permanence rouvrir les questions du passé pour en tirer un avantage idéologique, on ne va pas entrer dans leur jeu.
Je voulais revenir sur les recommandations de l'ONU. Un rapporteur de l'ONU était venu en Espagne au moment où Mariano Rajoy était encore au pouvoir, donc en 2014. Et il avait fait des recommandations dans le domaine des droits de l'homme, du droit à la vérité, du droit à la justice pour les victimes du franquisme. Aujourd'hui, plus de 4 ans après, l'ONU a fait un nouveau rapport en disant qu'il n'y avait eu aucune avancée sur les domaines et sur ces recommandations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des Nations Unies ?
Pour moi, il faut d'abord lire ce rapport, réalisé par un rapporteur spécial. Il n'a pas été rédigé par l'Assemblée générale de l'ONU ou par le Comité des droits de l'homme. C'est un rapporteur spécial qui a rendu visite à l'Espagne en 2014. À ce moment-là, il a réalisé une série d'évaluations qui peuvent être acceptées dans certains cas, mais qui peuvent également être débattues dans d'autres cas. C'est ce que font tous les États quand un rapporteur spécial fait un diagnostic après une visite. Ça ne veut pas dire qu'ils détiennent la vérité absolue. Dans la plupart des cas, les États répondent et considèrent qu'ils ne partagent pas le même avis sur ces évaluations, même si on remercie ce rapporteur des Nations Unies de nous avoir donné son opinion sur ce dossier.
Il y a quelques jours, un nouveau rapporteur spécial de l'ONU s'est rendu à Madrid et a rappelé que l'Espagne avait des obligations en matière de droits des victimes. Fabian Salvioli a appelé le gouvernement à enquêter, juger et condamner les responsables franquistes. En un peu plus d'un an, 12 plaintes ont été déposées pour actes de torture en Espagne. Il en existe des centaines, voire des milliers d'autres, mais qui concernent d'autres crimes comme des disparitions forcées ou des vols de bébés sous la dictature. Ces plaintes pour torture constituent donc presque un nouveau mouvement juridique parti de Madrid et qui s'étend aujourd'hui à d'autres villes espagnoles. Les 3 dernières plaintes ont été déposées à Oviedo dans les Asturies. Il s'agit de 3 anciens militants communistes. Ils ont été aidés par l'association La Comuna qui leur a trouvé un avocat bénévole pour les accompagner dans leur démarche.
Bonjour, je suis Alberto Suárez. Je représente Vicente, Faustino et Gerardo qui ont porté plainte contre Pascual Honrado de la Fuente. C'est un tortionnaire franquiste. Nous voulons qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité.
En quoi votre rôle aujourd'hui est important aux côtés de ces 3 hommes d'un certain âge? Ils ont plus de 70 ans, 2 d'entre eux ont même plutôt 90 ans.
Moi, je transmets simplement ce qu'ils me racontent. C'est vrai que pendant les entretiens que j'ai eus avec eux, ça a été très difficile pour eux de se remémorer ce genre de choses. Ils ont plus l'habitude de se rappeler de l'aspect politique de leur militantisme. Moi, ce que je voulais qu'ils me racontent, c'était vraiment la torture en soi, ce dont ils avaient souffert, et la façon dont les actes ont été commis. Parfois, ils sont très réticents à raconter, surtout comment ils ont été torturés. C'est important que ça apparaisse dans la plainte. Elle doit décrire de façon très claire quel type de torture ils ont souffert, comment c'était, en spécifiant ce qu'on leur faisait exactement. Et ça, c'était difficile pour eux de le raconter. J'ai l'impression que pour eux, c'était quelque chose qui n'était pas normal, mais qui était lié de façon implicite à leur militantisme politique.
Quelle pourrait être la sentence pour un tortionnaire, mais qui a aujourd'hui un certain âge, si jamais un tribunal ouvrait finalement un procès et qu'il était condamné, quelle pourrait être la sanction ?
Les crimes contre l'humanité, c'est l'infraction la plus grave dans notre code pénal. Mais la peine qu'encourt la personne qui a commis ces actes de torture, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'on reconnaisse que ces victimes ont été torturées et qu'il y ait une sanction pénale. Après, en fonction de la situation de la personne, la peine ou le semblant de peine peut être exécutée ou non. Mais ce n'est pas une question qui nous paraît si importante.
En attendant l'ouverture d'un procès, les victimes peuvent croiser leur tortionnaire dans la rue. C'est déjà arrivé à Madrid comme à Oviedo.
Me llamo Vicente Gutiérrez Solís, nacido en el año 1933.
Je m'appelle Vicente Gutiérrez Solís, je suis né en 1933 et je suis entré au Parti communiste en 1955.
Yo fui detenido siete veces.
Moi, j'ai été arrêté sept fois. Et à quatre reprises, c'est ce policier, Pascual, qui m'a arrêté. Il y avait lui, mais aussi Ramos, le chef du commissariat. Ce sont eux qui se sont le plus mal comportés avec moi. Ils me frappaient dans le dos. Il y avait aussi les coups de poing qu'ils te donnaient dans l'estomac. Tous les coups qu'ils te foutaient, ça t'anéantissait.
Pascual,
je l'ai croisé après, dans les années 80, avec un autre policier devant le local du Parti communiste. Je suis allé les voir et je leur ai dit que c'était lamentable de rencontrer encore ces tortionnaires dans la rue, que c'était une honte qu'ils aient poursuivi les gens quand ils manifestaient ou quand ils luttaient pour les libertés démocratiques. Il ne m'a même pas répondu. Ça me fait mal de devoir me rappeler que ces policiers se promènent encore par ici et qu'on ne les ait pas sanctionnés comme ils le méritent.
Votre plainte a été rejetée en première instance par le tribunal. Vous allez avoir l'énergie suffisante pour aller jusqu'au bout dans cette bataille un peu finale contre cet homme qui vous a torturé ?
Totalement. Mientras queden energías,
totalement, bien sûr. Tant que j'ai de l'énergie, que je suis en bonne santé, je continuerai. Je continuerai à demander et à exiger que ce type de personne soit jugé comme il se doit et qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Il s'agit de refermer une blessure qui s'est ouverte dans la société espagnole. Et elle n'est pas fermée, qu'ils ne mentent pas. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui, on ne sait même pas où sont leurs corps. Donc on va continuer de se battre jusqu'au dernier moment. Pour leur rappeler qu'on est toujours là.
Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba.
Vous entendez Luis Eduardo Aote, il a écrit cette chanson à l'alba peu de temps après, avant la mort de Franco. Elle évoque l'exécution de cinq jeunes militants d'extrême gauche le 27 septembre 1975 et c'est devenu un hymne anti-franquiste. Plainte pour torture, les oubliés du franquisme, un reportage de Maïwenn Bordron avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En studio avec nous, Sophie Babi, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Sophie Babi, on a des chiffres sur les disparitions pendant la guerre civile et la dictature. Est-ce qu'on a pu quantifier les actes de torture dont il était question dans ce reportage ?
Alors non, il n'existe pas à ce jour du tout de quantification de ces actes de torture. Il y a un seul rapport qui existe, tout récent, depuis un an ou deux, qui a été fait uniquement pour le Pays Basque, qui est un rapport demandé par le Parlement, enfin le gouvernement autonome basque, et qui fait état de plus de 4000 cas de torture sur la fin du franquisme et le début de la démocratie. Mais bon, on est dans un cas très particulier qui est le Pays Basque avec le TA et la lutte contre-terroriste.
Voilà. Oui, alors à noter qu'au Pays Basque et en Catalogne, il y a eu beaucoup plus une sensibilisation beaucoup plus forte aux crimes du franquisme.
Alors oui, il y a une sensibilisation beaucoup plus forte au Pays Basque, en Catalogne, mais il y a aussi beaucoup d'autres communautés autonomes qui sont très très engagées dans la lutte pour la mémoire des victimes du franquisme, notamment l'Andalousie qui a été la plus touchée, ou encore la Navarre. Donc c'est un phénomène qui se développe un peu partout sur le territoire espagnol, mais dans lequel il est vrai, Madrid est un peu à la traîne. Mmh.
Mais alors, pour en revenir à ces éléments de preuve, en fait, parce que c'était évidemment le sens de ma question, quand les tribunaux disent « là, on n'a pas assez de preuves pour aller plus loin », c'est que effectivement, il n'y a pas eu suffisamment d'éléments actés par l'État pour que la justice soit en mesure ensuite d'apporter une réponse.
Alors, il n'y a eu tout simplement aucun élément acté par l'État en ce qui concerne les actes de torture. Donc, il y a eu des plaintes à la fin du franquisme et au tout début de la transition démocratique, en 1976 notamment, avec la mort de Franco, s'est ouvert un moment un peu d'ouverture politique. Et certains torturés ont tenté de porter plainte. Il y a eu quelques condamnations, quelques sanctions de policiers, mais qui étaient très maigres, où ils étaient sanctionnés à quelques jours d'arrêt, quelques semaines d'arrêt, ils étaient mutés, etc. Et il y a eu quelques procès dans les années 80, avec quelques condamnations dans les années 80, mais très peu. Et il y a eu aussi tout simplement très peu de plaintes déposées par rapport à l'ampleur du phénomène tel qu'il existait à la fin du franquisme.
Et alors, Maïwenn, dans votre reportage, vous nous parliez de Billy El Niño, Billy the Kid, entre guillemets. Donc lui, c'est le tortionnaire de Jesús et de Rosa. Il a reçu des médailles, hein, même après la dictature.
Oui, au total, il en a reçu 4 et ça lui permet aujourd'hui de percevoir une retraite qui est 50% supérieure, il me semble, à ce qu'il aurait dû toucher. Donc aujourd'hui, le nouveau gouvernement donc socialiste de Pedro Sánchez a, semble-t-il, trouvé un compromis avec le leader de Podemos, Pablo Iglesias, pour retirer à ce tortionnaire ses médailles. Bon, ils n'ont donné aucun détail sur la façon dont ils allaient réussir à le faire légalement, mais ça reste encore une mesure, on parlait d'El Valle de los Caídos, ça reste une mesure symbolique. On va rester avec ce gouvernement sur finalement des mesures symboliques en faveur des victimes du franquisme.
Alors, déjà, il y a effectivement un grand changement, et vous l'avez montré hein, depuis quelques mois avec le changement de gouvernement et l'arrivée des socialistes au pouvoir. Donc, il y a ce thème de la mémoire historique qui était totalement banni de l'agenda gouvernemental, tout d'un coup a été remis sur le devant de la scène, déjà. Alors, effectivement, jusqu'à présent, le gouvernement se contente de mesures d'appel, hein, de mesures assez symboliques et très médiatiques, je dirais, comme l'exhumation du corps de Franco.
Mais ça, c'était justement la première chose à faire ? C'était un symbole important, il fallait passer par là, ou est-ce qu'honnêtement il aurait dû commencer par...
Alors je ne sais pas par quoi il aurait dû commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, ça c'est un élément fort, effectivement, facile, mais absolument nécessaire, et qui effectivement est un bon point de départ pour donner un peu l'état du programme du gouvernement. Voilà. Après, en ce qui concerne les médailles de Billy El Niño, attention, ces médailles elles ont quand même été accordées pendant la période de la transition démocratique. C'est-à-dire que c'est dans les années 80, on est dans des moments où elles n'ont pas été accordées dans les années 2000, etc. En revanche, il est vrai qu'elles n'ont jamais été retirées, parce qu'il n'y a eu aucune politique à cet égard, bien sûr, de retrait des médailles de ceux qui ont été décorés pendant le franquisme ou pendant la transition.
Mais alors, quand on entend Francisco Martinez Vázquez dire que la transition a été exemplaire et qu'elle a donc permis la sortie de la dictature, ça... Comment est-ce que vous écoutez ce propos ? Est-ce que quand même fondamentalement cette réconciliation a effectivement permis de beaucoup avancer ou est-ce que ça vous fait quand même un peu sourire ?
Alors non, c'est ce récit-là d'une transition, donc c'est-à-dire d'un passage de la dictature à la démocratie qui a été exemplaire. C'est un récit fondateur en fait de la démocratie espagnole. Donc c'est un espèce de ce que j'appelle moi un mythe fondateur, voire ce que d'autres appellent une narration rédemptrice, c'est-à-dire qui a permis vraiment de sortir l'Espagne du cycle de violence que vengeresse hein, dans lequel elle était depuis le début de son époque contemporaine. Et donc c'est une transition qui a été faite selon ce principe, cette volonté-là de faire une réforme pacifique et exemplaire. Et ensuite le récit s'est transmis par différents, il a été approprié par les différents groupes politiques, en fait.
Et bon. Donc, tout le monde était d'accord à ce moment-là ?
Alors, tout le monde était d'accord. En tout cas, oui, les élites qui ont fait cette transition, c'est-à-dire à la fois l'opposition et les réformistes du régime franquiste, étaient tous d'accord pour faire tirer un trait sur le passé, c'est-à-dire ne pas, en gros, se balancer les morts à la figure, les uns des autres, pour le dire très simplement. On n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on le met de côté pour pouvoir construire l'avenir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des revendications autres et des mobilisations pour que ce soit autrement.
Maïwenn Bordron.
Oui, au moment de la transition démocratique, la plupart des partis de gauche, comme le Parti communiste notamment, signent ce qu'ils ont appelé le pacte de transition. J'imagine qu'à ce moment-là, l'ensemble de ces politiques de gauche n'imaginaient pas que le pacte qu'ils venaient de signer allait finalement se retourner contre leurs propres militants, parce que la plupart des militants de gauche, c'est eux qui ont souffert la répression du franquisme.
Alors attention, pas de confusion là-dessus, il n'y a jamais eu de pacte signé. Ça, c'est ce qu'on dit, le pacte d'oubli, mais ça n'a jamais été signé, il n'y a pas de texte écrit ni rien du tout. C'était juste un état d'esprit à l'époque, mais c'est plus, ça va encore au-delà de ce que vous dites, c'est-à-dire que ce sont les communistes les premiers qui ont promu une politique de réconciliation dès les années 50, c'est-à-dire en plein franquisme, quand ils ont décidé d'abandonner la lutte armée et les maquis, de se résigner à l'existence de franquisme et surtout d'essayer de lutter autrement. Et de se dire on va lutter autrement de l'intérieur et on va promettre la réconciliation sur l'après. Donc cette volonté de pardon, d'amnistie, de réconciliation, elle vient de l'opposition avant de venir des partisans du régime. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas une loi d'impunité au moment où elle est votée, parce qu'elle n'est pas pensée comme telle. Elle devient par la suite une loi d'impunité, mais elle ne l'est pas du tout en 1977, cette loi d'amnistie.
Alors justement, cette loi d'amnistie, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a vu qu'elle était considérée comme un frein à la justice, est-ce qu'il faudrait la changer ?
Alors, cette question est purement politique. C'est-à-dire, l'Assemblée, le Parlement espagnol, peut effectivement amender cette loi et révoquer cette loi.
Pour l'instant, le gouvernement ne l'envisage pas.
Je pense qu'il n'a absolument pas la majorité pour le faire. Hein, parce que là, pour le coup, je pense que le PP et Ciudadanos s'opposeraient fermement à cette tentative-là. Et puis, c'est une question aussi éminemment polémique en Espagne, bien plus que la possibilité de réformer la loi de la mémoire historique en 2007, à cause justement de cette question de la fondation de la nation qui s'est fait autour de ce discours de rédemption des crimes du passé.
Maïwenn.
Comment expliquer que le Parti socialiste aujourd'hui accepte de réformer la loi de mémoire historique et pas celle d'amnistie? Donc au mois de mars, on l'a dit dans le reportage, le PSOE, donc le Parti socialiste, s'est opposé à la réforme de la loi d'amnistie. Comment expliquer qu'ils acceptent une réforme et pas l'autre? C'est politiquement aujourd'hui, cette loi d'amnistie, c'est un symbole de la transition, il ne faut pas y toucher ça.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est vraiment un symbole de la nation espagnole et peut-être de façon un peu excessive, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle est pensée. Et le PSOE, attention, ne nous faisons pas de confusion là-dessus non plus, a très longtemps partagé ce pacte d'oubli ou en tout cas cette volonté de réconciliation. Il en a été même le premier partisan et le premier promoteur.
Donc aujourd'hui, quand même, le gouvernement socialiste veut réformer la loi de mémoire historique, oui. Mais c'est pas gagné parce qu'il a besoin, là aussi, de la majorité absolue.
Oui, on leur suffit que certains s'abstiennent. Voilà, il suffit d'obtenir l'abstention de Ciudadanos, notamment.
Et ça, aujourd'hui, ça semble envisageable ?
Bah, écoutez, oui, en tout cas, il l'espère. Mais c'est compliqué parce que aussi bien la droite que Ciudadanos, dans l'ensemble, refusent toutes ces mesures qui touchent au passé du franquisme.
Et alors, est-ce que la perspective d'une commission vérité sur le franquisme en inquiète certains ?
En inquiète certains, oui, probablement. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution non plus, cette histoire de commission de vérité. En tout cas, c'est ce qui a été proposé par le gouvernement Sanchez, c'est ce qui a été proposé aussi en Catalogne, parce que ça fait partie de ces mesures phares des instruments de ce qu'on appelle la justice transitionnelle et qui sont aujourd'hui totalement vraiment prises en compte, mobilisées par les associations de victimes, notamment par la Fondation Garçon, que vous avez évoquée, qui a aidé à rédiger donc ce projet gouvernemental. Après, tout dépend de l'objectif de la commission de vérité, c'est-à-dire attribuer des responsabilités pénales, fournir des preuves ou tout simplement faire des enquêtes, établir la vérité et reconnaître la responsabilité de l'État. C'est des choses assez différentes. Et il me semble que les objectifs au fond de cette commission de vérité ne sont pas encore très clairement établis au sein du gouvernement.
Alors aujourd'hui, en ce qui concerne les victimes, si elles veulent obtenir gain de cause, est-ce qu'il faut, si elles voient que ça n'avance pas en Espagne, est-ce qu'elles peuvent encore se retourner vers la justice universelle comme elles l'avaient fait en allant en Argentine ?
Alors malheureusement, de nos jours, dans le monde, il y a presque plus que l'Argentine qui utilise ce principe de la compétence universelle de façon extrêmement élargie et donc qui permet d'accueillir ce type de plainte. Quasiment tous les autres pays ont restreint l'usage de ce principe de la compétence universelle. Quant à passer devant la Cour pénale internationale, ça, il n'en est pas question pour l'instant.
Et éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme, ça aurait du sens ?
Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, elle permet de sanctionner l'État, par exemple, pour ses manquements quand la justice ne fait pas son travail d'enquête pour les procédures de torture, par exemple. Et ça a déjà été le cas. La CEDH a déjà condamné l'Espagne pour non-instruction de certains dossiers de torture. Voilà. Mais elle ne peut pas condamner des bourreaux.
Donc, c'est un levier, mais insuffisant.
C'est un des leviers de la justice internationale qui est utilisé aujourd'hui par les victimes, mais il y en a tellement d'autres qui sont mobilisés par ces associations sans que ça n'aboutisse encore à grand-chose au niveau pénal.
Donc là, l'espoir, c'est qu'avec un gouvernement plus ouvert, il y ait un peu plus...
Oui, alors après, on entend bien les victimes. C'est-à-dire, ce qu'elles demandent, c'est pas non plus la condamnation des bourreaux, forcément. En tout cas, pas forcément qu'ils aillent en prison. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance, c'est une écoute et une reconnaissance de la part de l'État, des souffrances qu'ils ont vécues et de la responsabilité de l'État après une condamnation pénale, si possible, même s'ils savent très bien, ces associations, enfin ces victimes, elles savent très bien que ça va être très difficile.
Merci Sophie Babi. Plainte pour torture, les oubliés du franquisme. Le grand reportage de cette semaine était signé Mayouen Bordron, réalisation Annie Bro, avec Jacques Azuber à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.